Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot International sur RFI pour vous parler de football et vous donner les dernières nouvelles. Nous serons très africains aujourd'hui encore. Et justement, le Mauritanien Ahmed Yahia est notre invité dans Radio Foot International. Le président de la Fédération Mauritanienne et candidat à la présidence de la CAF et nous lui demanderons pourquoi cette candidature. La suite des éliminatoires pour la CAN 2022 et cette quatrième journée, Madagascar et Côte d'Ivoire ont fait match nul. Rien n'est joué donc dans ce groupe. Pareil pour Lesotho et Bénin. Nous reviendrons aussi sur la défaite des Panthères en Gambie dans un contexte qu'on baptise nous d'anti-jeu et qui fait encore scandale. La CAF réagira-t-elle ? Nous parlerons aussi des Lions indomptables et cette pluie de buts sur les deux derniers matchs. Le Cameroun est en forme, il est, on le sait, qualifié d'office, mais est-ce de bon augure pour les hôtes de la prochaine compétition ? Enfin, un peu de football européen avec la Ligue des Nations qui tiendra compagnie aux Bleus en phase finale de la compétition européenne. L'Italie ou la Belgique, et la Belgique d'ailleurs, joueront demain soir, futurs adversaires peut-être des Bleus, lors du tournoi final. Et nous vous raconterons comment et pourquoi. Bonjour Hervé Penaud.
Bonjour Annie, quel plaisir d'être en votre compagnie. Et quand je vois un tel sommaire, bah c'est très alléchant.
Hein, ça vous met en forme.
Ah, bien sûr.
Vous aussi Patrick Juillard.
Ah oui, là on ne peut pas être mieux. Là. Bonjour Annie.
On peut pas être mieux, oui, bonjour évidemment. Nos spécialistes, grands spécialistes du football africain. Laurent Salerno est à la réalisation. Tom Rossi m'a aidé à préparer cette émission. À Radio Foot, c'est parti. Cinq candidats pour un seul siège, celui de président de la Confédération africaine de football, la CAF. Nous avons déjà donné la parole dans Radio Foot à deux d'entre eux, l'Ivoirien Jacques Anouma, ancien président de la Fédération ivoirienne, la FIF. Nous avons donné aussi la parole au Sénégalais, actuel président de sa fédération, Augustin Senghor, hier à 7h, alors que nous espérons aussi donner prochainement la parole au candidat sud-africain, Patrice Motsepe, et au président sortant, le malgache Ahmad, lorsqu'il sera sorti de sa convalescence. Aujourd'hui, notre invité dans Radio Foot est le cinquième des candidats, le Mauritanien Ahmed Yahia, président de la Fédération de Mauritanie, la FRIM, depuis 2011. Bonjour Monsieur Yahia.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Merci de me recevoir dans votre émission.
Ben merci beaucoup à vous d'accepter de répondre à nos questions. Ma première question sera d'ailleurs comme celle que j'ai posée à vos concurrents, pour ne pas dire adversaires, dans cette élection. Pourquoi, monsieur Ahmed Yahia, êtes-vous candidat ? Qu'est-ce qui a motivé cette décision ?
Annie, d'abord, je voulais dire que je ne suis pas le cinquième candidat. Au niveau des dépôts, je crois que j'ai été le troisième.
Oui, non, c'est pas du tout une hiérarchie, c'est voilà. Sur notre antenne.
Voilà. Sauf que je n'aime pas être le dernier, en fait.
D'accord, pardon.
Mais écoutez, pour me présenter à la CAF, j'ai soigneusement évalué la situation actuelle de la CAF. Et en prenant en compte les intérêts suprêmes du football africain, j'ai décidé de me porter candidat avec l'envie de changer les choses et mettre la CAF et le football africain à la place qui leur revient. J'estime que la CAF doit être une institution bien organisée, respectée et qui apporte une contribution positive à notre football. Et pour cela, nous devons avoir une vision, une stratégie claire et bien évidemment un personnel qualifié qui devrait travailler et se concentrer sur le développement du football en Afrique. À commencer évidemment par une gestion professionnelle et transparente de la CAF.
Est-ce à dire que c'est pas bien organisé ? Parce que on avait la sensation que vous étiez plutôt proche du président Ahmad. Pourquoi être candidat face à lui ?
Écoutez, la question n'est pas d'être candidat contre Ahmad. Je n'aime pas qu'on se trompe du sujet. Le sujet n'est pas de se présenter contre Ahmad ou quelqu'un d'autre. J'ai beaucoup de respect pour tous les candidats. Quand on est candidat sérieux, on se motive pas à une élection pour se présenter contre une personne ou des personnes. J'étais certes dans le comité exécutif avec Ahmad, et mais aujourd'hui, la situation de la CAF, de son leadership, fait que je dois me présenter. Je suis surtout animé par un engagement, une vision et un projet africain ambitieux pour l'avenir de la CAF et de notre football.
Hervé Penaud.
Oui, bonjour Président. Oui, mais on a quand même la sensation que le fait que vous présentiez contre lui, de fait, puisqu'il est lui aussi candidat...
En tout cas face à lui.
En tout cas face à lui, voilà. On va utiliser ces termes, en tout cas face à lui. Et puis même ce que vous venez de dire sur la situation de la CAF, alors c'est que vous avez la sensation que la CAF soit est mal gérée, soit prend des chemins de traverse. Et puis on a entendu beaucoup de choses autour de la future candidature d'Ahmad, et notamment le problème avec le comité d'éthique de la FIFA, qui pourrait peut-être le disqualifier. On n'en a aucune certitude aujourd'hui. Il n'empêche qu'il y a quand même des incertitudes sur l'avenir d'Ahmad pour la candidature à la Confédération africaine de football. Alors, est-ce que c'est aussi tout ça qui vous fait venir? Donc, le fait est que vous avez l'impression peut-être que la CAF prend un mauvais chemin.
Écoutez, moi, je suis candidat parce que c'est ma volonté et c'est ma ferme conviction que je peux faire apporter une nouvelle vision et une nouvelle situation, des jours meilleurs pour la CAF. Maintenant, vis-à-vis de l'avenir d'Ahmad, je n'aime pas me hasarder parler de ce qui va se passer parce que je respecte les instances, le comité d'éthique et ce qui va se passer. Ahmad est certes été le président de la CAF, j'étais dans son comité, je l'assume et j'ai travaillé avec lui. Maintenant, il y a eu des choses positives, il y a eu des choses négatives qui ont terni l'image de la CAF et je ne veux pas m'attarder énormément là-dessus. Je préfère aujourd'hui venir parler de mon programme et quant au bilan passé parce que pour moi il y a eu des choses positives, il reste beaucoup de choses à faire et je suis là pour apporter une dynamique et des idées nouvelles qui sont nécessaires pour le football africain et pour son avenir.
Monsieur Yaya, de quel soutien bénéficiez-vous? Parce que lorsque vous êtes candidat, vous êtes obligé d'être soutenu au moins par 3 fédérations. Quelles sont les fédérations qui sont derrière votre candidature?
Écoutez, comme vous venez de le dire, pour se présenter aux élections de la présidence de la CAF, les statuts de la CAF stipulent que chaque candidat doit être parrainé par 3 associations membres, dont évidemment obligatoirement sa propre fédération. Aujourd'hui, ma candidature est parrainée par tout d'abord mon pays, la Mauritanie, et ensuite l'Ouganda, le Mali et le Djibouti. D'autres fédérations m'ont déjà signifié leur soutien et j'espère que d'autres suivront dans les semaines à venir. Mais pour moi, la campagne ne fait que commencer.
Est-ce que vous bénéficiez du soutien de Gianni Infantino? Parce que c'est un président de la FIFA qui est venu par 2 fois à Nouakchott. Et vous êtes parmi les nations, on va dire, émergentes du football africain. On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que la sélection des Morabitoun a beaucoup progressé depuis que vous êtes président de cette fédération. Est-ce que il cite le travail de votre fédération en exemple, on s'en souvient, c'était au comité exécutif de Kigali, si je me trompe pas. Est-ce qu'il vous encourage dans votre candidature?
Écoutez, comme vous le savez, la FIFA ne soutient et ne doit pas soutenir un candidat. Moi, j'ai certes de très bonnes relations avec le président Gianni. Ici, il a visité la Mauritanie à 2 reprises, comme vous le citez. C'est parce qu'il est venu inaugurer des actions, des projets importants financés par la FIFA et son programme Forward. Et s'il nous a cité aussi un exemple, c'était dans le but d'inciter les autres à aller dans ce sens et à réaliser des projets concrets avec le soutien et l'aide de la FIFA. Donc, j'ai de bons rapports avec la FIFA et je veux que cela continue comme ça. La FIFA est importante pour l'Afrique, certes, et pour tout le monde, et tout le monde le sait d'ailleurs. Et nous devons penser par nous-mêmes, certes, au niveau de l'Afrique, et prendre des décisions nous-mêmes, en pensant toujours au développement du football africain. Ici, nous ne voulons pas avoir des... j'aimerais toujours avoir des bonnes relations avec tout le monde, mais surtout parler et agir fièrement au nom de l'Afrique.
Bien sûr. Et,
là aussi, si vous parlez du soutien de la FIFA, je tiens à dire quelque chose, car la rumeur est parfois répandue. Je ne suis surtout pas le plan B d'Ahmad. Et encore ni le candidat de la FIFA, qui n'a pas de candidat d'ailleurs. Je suis le candidat de l'Afrique pour servir l'intérêt du football africain.
D'accord. Patrick Juillard.
Oui, bonjour Président, et merci de répondre à nos questions. Alors, vous avez évoqué dans une précédente réponse les aspects négatifs du bilan d'Ahmad. Est-ce que l'état assez déplorable des finances de la CAF figure pour vous parmi ces éléments négatifs? Et que feriez-vous si vous étiez élu pour rétablir la situation financière de la CAF?
Merci Patrick pour cette question, parce qu'elle me donne l'occasion aussi d'un peu développer mon programme. Parce que si je dois parler des finances, je dois parler un peu de tout ce que je peux faire pour l'Afrique. Et si vous le permettez, dans votre émission, j'aimerais un peu, en quelques mots, avancer ce que je peux apporter à la CAF, sans parler du passé. Je pense que mon ambition pour la CAF, c'est qu'elle soit une institution dont tous les Africains sont fiers, et que je dois apporter des réformes qui feront de la CAF une institution professionnelle, efficace et transparente. Moi, ma vision est de faire grandir et de développer durablement le football sur notre continent. Si je vous donne un exemple, je rêve par exemple d'avoir une équipe africaine en finale de la Coupe du Monde. Mais je sais que pour y parvenir, nous devons travailler de manière cohérente et sur le long terme. Je pense aussi que nous devons investir plus sérieusement dans le football féminin. Nous devons aussi favoriser, développer, et travailler pour le développement des joueurs sur le sol africain et être en mesure de retenir nos talents sur le continent. J'estime que nous devons avoir surtout des clubs structurés qui participent à des compétitions passionnantes dont l'intégrité et la transparence ne seront pas contestées. Je pense aussi que nous devons surtout examiner, et là pour répondre essentiellement à votre question, les possibilités commerciales qui s'offrent à nous pour accroître les revenus du football africain. Je pense que en ces temps difficiles, je suis sûr qu'il existe de nombreuses opportunités inexploitées. Je crois que nous pouvons explorer de nouvelles ressources de revenus en proposant des solutions innovantes, et nous augmenterons les revenus existants grâce à une stratégie commerciale. Si vous le permettez, je vais dire quelque chose. Si je suis élu, je vais œuvrer pour accroître le soutien que la CAF apporte aux fédérations. Parce que, comme vous le savez, la CAF aujourd'hui accorde une subvention de $200,000 à chaque fédération. Je pense que nous devrions soutenir beaucoup plus nos fédérations, et nous en avons les moyens, certes. Si je vous donne un exemple, la Mauritanie aujourd'hui, mon équipe et moi avons multiplié en quelques années par 20, je dis bien par 20, les revenus de la fédération, grâce à de nouvelles idées, des projets, une bonne gestion, des partenariats commerciaux et un suivi rigoureux.
Oui, c'est pour ça que d'ailleurs le président Infantino vous citez en exemple, votre travail.
Mais j'insiste là-dessus, je ne promets pas de multiplier par 20 les revenus du soutien de la CAF. Mais je veux m'assurer d'augmenter les revenus de la CAF et des fédérations africaines pour développer le football en Afrique.
Oui, je crois qu'elle en a bien besoin en ce moment. Président Yaya, une question encore au sujet de la CAN. On a entendu beaucoup de rumeurs, de déclarations aussi, et voire de pression sur une CAN, peut-être seulement tous les 4 ans, à cause d'un calendrier international qui est de plus en plus serré pour de nombreux joueurs africains qui jouent en Europe. Est-ce que vous êtes favorable à cette CAN tous les 4 ans?
Écoutez, c'est là un sujet à débattre, à mon avis. La CAN a lieu aujourd'hui tous les 2 ans, pour une raison certes. Nous devons donc avoir... je pense que nous devons voir si cela vaut la peine de changer la fréquence. Et je pense qu'il faut peser le pour et le contre. Quel intérêt pour le football africain de changer?
Il y a beaucoup de pression de la FIFA.
Ou quel sera l'impact? Je pense que je n'ai pas la réponse pour aujourd'hui, mais je peux vous assurer qu'un changement ne peut être envisagé que s'il y a un avantage et des retombées positives pour le football africain. Parce que pour moi, l'intérêt du football africain doit primer sur toute autre considération.
Mais des avantages financiers?
Des avantages financiers, la périodicité, beaucoup de choses. Je pense que les choses, on doit les faire en concertation entre nous, d'abord les fédérations africaines et la famille du football africain, et voir le pour et le contre. Est-ce que rester à 2 ans, c'est plus favorable à la CAF, ou passer à 4 ans, ça apporte des avantages.
D'accord. Hervé?
Oui, Président, bon, on sait que c'est une grande bataille un peu géopolitique qui se déroule en sous-main. On a vu l'arrivée d'un candidat sud-africain, donc qui sera soutenu un peu par certainement pas mal de gens dans la région et puis pas mal d'anglophones, même si on sait que c'est parfois les voix sont pas aussi soudées qu'on peut l'espérer.
Et le dernier à se déclarer était le président Senghor, le 5e.
Et voilà, et le petit problème que vous pourriez peut-être avoir, et quel est votre avis sur cette question-là, c'est qu'il y a en gros 3 candidats venant de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le fait qu'il y ait autant de candidats d'une même région, finalement, de l'Afrique, ce soit pas un handicap, puisque chacun, finalement, va peut-être manger les voix les uns des autres? Vous l'avez dit vous-même, vous êtes soutenu par le Mali. Le Mali aussi pourrait soutenir Senghor, pourrait soutenir Jacques Hanouma. Donc, est-ce que vous n'avez pas la sensation, justement, que ça fera un petit peu trop d'hommes de la même région?
Écoutez, Hervé, vous savez, pour moi, le plus important, et pour les Africains, ça doit l'être, n'est pas de savoir s'il y a un candidat ou s'il y a 3 candidats dans une région ou une autre. Ça ne doit pas être une question de rivalité entre régions, à mon avis, ou entre zones ou groupes linguistiques. Le plus important, à mon sens, c'est ce qui compte pour les associations membres et les acteurs du football africain, c'est la crédibilité, le projet, la vision que porte chaque candidat pour le football africain.
Même si hier, Monsieur Senghor n'excluait pas qu'il pourrait y avoir justement une entente entre ces 3 candidats de la même zone africaine.
Écoutez, bon, d'abord pour moi, c'est à partir du programme et de la vision et tout ça que chacun doit juger et choisir son candidat. Mais si vous évoquiez des possibilités de d'alliance, etc., moi, de mon côté, ce que je peux dire, c'est que je suis un homme d'action. Je porte un projet inclusif pour l'Afrique, avec un programme qui sera construit avec les Africains, quel que soit leur pays, leur région, culture ou langue. Et ma porte restera ouverte pour toute personne qui s'identifie à ce projet et cette vision panafricaine pour bâtir l'avenir de la CAF et de son football.
Merci beaucoup, Monsieur Amadiaya, pour ce qui est du candidat, je dirais, à qui on parlait. Et le scrutin aura lieu le 12 mars prochain et ça sera à Rabat. Au Maroc. Mais on avait une question quand même au président de la Fédération de Mauritanie et sur votre équipe de football. Depuis que vous êtes président de cette fédération, l'équipe nationale est quand même passée de la 206e place au classement FIFA à actuellement 98e, donc vous êtes rentré dans le top 100. Les Morabitoun sont deuxième de leur groupe d'éliminatoires pour la prochaine CAN, dans un groupe quand même relativement homogène, même si le Maroc se détache. Qu'est-ce que vous pensez des derniers résultats de la Mauritanie face au Burundi? Est-ce qu'il y a une menace à la participation à la prochaine CAN?
Écoutez, à mon avis, je pense qu'on fait partie des nations qui ont été touchées ou dérangées par la situation du Covid.
Oui.
Je vous rappelle qu'on avait un match amical qu'on devait jouer contre le Sénégal, justement, lors de la dernière journée FIFA.
Oui. Et a été annulé
parce qu'on avait plusieurs cas Covid.
Exact, oui.
Entre-temps, c'est des cadres de l'équipe nationale qui ont été mis en quarantaine pendant 3 semaines, d'autres 2 semaines, d'autres ne se sont pas n'ont pas pu s'en sortir. Et aussi, on a eu beaucoup de joueurs qui ont souffert du rythme. Et en tout cas, je pense que ça nous a touchés, mais c'est aussi l'adversaire, il était bon, il faut l'avouer, le Burundi. Nous, on est resté sur notre politique de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que l'équipe nationale soit dans des bonnes conditions et travailler dans les meilleures conditions possibles avec la stabilité du staff technique, etc. Mais c'est le football, on a pu obtenir un point sur les deux dernières journées. On est toujours deuxième, on a nos chances et on va aller chercher cette qualification lors des deux dernières journées. Mm-hmm. On a l'avantage de jouer un match à domicile, un autre à l'extérieur. Je pense que nos chances sont toujours là et on va travailler pour comme on en a l'habitude.
Oui. Patrick, oui, pour terminer.
Président, est-ce que vous ne craignez pas que l'effet de surprise ait un petit peu disparu et que les adversaires maintenant soient prévenus des qualités des Mourabitoun et que ça vous complique la tâche ?
Écoutez, je sais, pour moi, l'effet de surprise a disparu depuis longtemps parce que.
Vous étiez la dernière CAN.
Avec la dernière CAN et deux CHAN et les louanges que certains avancent sur nous, malgré que je préfère qu'on reste modeste et qu'on soit toujours une fédération et un football émergent et qui essaye de prendre sa place. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, et je m'en réjouis, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Et on sait qu'on est attendu partout et ça nous incite davantage à continuer à travailler et à faire plus que les autres si c'est possible pour continuer à rivaliser, à, pourquoi pas obtenir une autre qualification à la CAN et continuer à grandir.
Merci beaucoup et bonne chance à vos Mourabitoun. Hein. On espère que on les verra progresser toujours au niveau du continent africain. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Ahmed Yahia, et donc bonne chance aussi pour le scrutin bientôt.
Merci Annie, merci Hervé, Patrick. Et
merci beaucoup. Merci
à bientôt.
Merci mille fois et à bientôt.
Merci. Au revoir.
Penalty si important pour récompenser la domination ivoirienne. Franck Kessié face à Melvin Adrien. C'est transformé avec beaucoup de sang-froid. Les éléphants mènent au score. Ils sont très très bien entrés dans cette rencontre. On se joue rapidement là ce corner avec Carolus qui prend l'extérieur, le centre de Carolus. C'est Ibrahim Amada qui a trouvé la lucarne de Kourou qui est resté sur place. L'égalisation malgache. Oh, cette égalisation, elle vient de nulle part. Pa 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 pa.
Une confrontation donc, Madagascar-Côte d'Ivoire qui s'achève par un score à égalité 1-1. Peut-être somme toute logique, on va en parler pour les deux équipes qui dominent le groupe K. Les qualifications dans ce groupe en tout cas vont être compliquées parce que pendant ce temps en Éthiopie, à Bahir Dar et non pas Addis Abeba, les Walia... Qu'est-ce que c'est les Walia?
Les antilopes.
Alors, j'ai un terme plus précis, Patrick Julia. Oui, il faut être plus précis.
Alors, je ne l'ai pas.
C'est
Tom Rossi
qui a trouvé ça tout à l'heure.
On dit les antilopes.
C'est
quoi.
Des bouquetins d'Abyssinie.
D'accord.
Ah, une petite nuance.
Un peu de précision ne nuit
oui,
pas.
Ça
c'est ça qui manque à Patrick. Patrick, il manque toujours
ça
précision.
Ça les différencie des Palancas Negras d'Angola, d'ailleurs.
Oui, et puis des Cranes et de tout ça. Bon, bref. En tout cas, ils ont, les Walias, dominé et vaincu le MENA national par 3-0. Alors, est-ce que pour les Ivoiriens, c'est devenu un peu plus compliqué? On sait qu'ils avaient mal commencé cette phase éliminatoire. Patrick,
non, là,
ils ont
ça,
gagné chez eux. Là, ils arrachent
mieux.
Le nul à Mada.
C'est ça, c'est-à-dire qu'ils viennent de faire 4 points sur 6 possibles lors de cette double confrontation contre Madagascar. Donc, ils reprennent les commandes en quelque sorte. Ils se réinstallent dans le fauteuil de favori d'où ils avaient été un petit peu sortis par cette équipe d'Éthiopie justement. Je trouve que ce qu'est, alors Patrice Baumel avait eu des débuts contrariés puisqu'il a été nommé juste avant l'interruption du football.
Ah oui, c'était quelques jours avant.
Il a dû attendre 6 mois, mais ça lui a peut-être permis de faire le point sur les troupes, les joueurs disponibles. Et là, on a vu qu'il lançait des jeunes, notamment en défense. Il est revenu à un schéma tactique assez proche de celui qui avait permis à la Côte d'Ivoire de gagner la CAN en 2015, un 3-4-3. Avec 2 pistons sur les côtés, Canon et Aurier, et 3 joueurs offensifs, 2 excentrés et une sorte de planche qui est Sébastien Allaire, un joueur pour détourner les ballons. Donc on voit à peu près ce qu'il veut faire. Il a fait tourner un peu l'effectif pour ce match. Il a reposé Gervinho notamment. Mm-hmm. Donc Je trouve que c'est un bon match de la Côte d'Ivoire qui aurait dû gagner. Rappelons que Caissier a frappé la transversale en deuxième mi-temps à 10 minutes, une dizaine de minutes de la fin, une quinzaine de minutes de la fin. La Côte d'Ivoire a manqué un peu de précision dans les derniers gestes, notamment Junior Lago en première mi-temps. Donc au point, disons, si c'était comme de la boxe, la Côte d'Ivoire devait gagner ce match parce que Madagascar a fait un bon début de deuxième mi-temps, a bien repris le contrôle, mais cet élan n'a duré qu'une vingtaine de minutes. Sur 60-70 minutes, c'est la Côte d'Ivoire qui domine.
Qui a dominé, oui, et même en possession de ballon aussi.
À tous les niveaux.
Gervinho, je crois qu'il était blessé.
Oui, ménagé.
Il faisait partie du trio qui avait mal supporté la pelouse du nouveau stade. Bizarrement, une nouvelle pelouse.
Comme coach,
qui blesse les gens.
Oui, d'ailleurs, ça, c'est une question pour
un scandale absolu.
Pour les futurs dirigeants de la CAF, c'est pelouses.
Tout à fait inadmissible de jouer dans des telles conditions, que ce soit en Côte d'Ivoire, en
Guinée-Bissau,
j'en parle pas. Sénégal. C'est un gros président de la CAF. Il va falloir qu'il ait déjà une belle pelouse chez lui.
En revanche, un contre-exemple, c'est le Cameroun, qui a bien travaillé sur ses pelouses, qui sont pas mal du tout sur ce qu'on a vu.
Elles sont prêtes pour
le Chan bientôt. Heureusement,
c'est des bonnes pelouses.
Heureusement. Mais pour en revenir à la Côte d'Ivoire, ce qui était important, et évidemment, pour un nouvel entraîneur qui arrive quand même avec le statut, qui est l'ancien adjoint d'Hervé Renard, c'est d'avoir réussi déjà à faire ce match nul à Madagascar. Je dis réussi ce match nul parce que c'est une équipe qui est très difficile à manier chez elle, Madagascar. Faut pas l'oublier. C'est une équipe qui est en pleine confiance, qui fonctionne très très bien.
La confiance gagnée à la dernière quart de finale et une qualification.
Absolument. Sur cette rencontre-là, alors ils ont fait l'essentiel, évidemment, de ne pas perdre, et puis ça permettait de garder et conserver la première place. Ils ont failli marquer par Caissier. Il ne faut pas oublier cette frappe de Caissier qui est à moitié rentrée par rentrée. Ça se joue à peu de choses. Il faut un exploit invraisemblable de Madagascar pour égaliser. Il ne faut pas l'oublier. Un but exceptionnel. Il y a match avec celui de Riyad Mahrez. Donc, ce qui était intéressant pour lui, c'est d'avoir déjà intégré beaucoup de nouveaux joueurs, de joueurs qui n'avaient pas connu véritablement de première sélection.
On a parlé d'Allaire, Willy Boly, Sinali Diomandé, Odilon Kosunou.
Exactement. Par exemple, l'axe Diomandé-Boly, c'est complètement nouveau. Diomandé a fait ses premières sélections il y a un mois, la dernière fois.
Il connaît des débuts accélérés, que ce soit à l'OL ou en sélection.
Tout à fait. Garçon, donc lui, c'est un gamin, il est tout jeune, tout neuf, il a 19 ans. Il n'est pas titulaire à Lyon, mais il a profité de l'absence de Nayer qui était blessé pour jouer. Il était très bon. Exactement. Après, vous avez Boly que vous réussissez à récupérer à l'air. Mais c'est pas parce que vous récupérez plein de joueurs comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il faut bien savoir qu'en Afrique, déjà, il y a des spécificités sur les rencontres, la manière dont ça se déroule, l'état d'esprit qu'il faut avoir, l'habitude d'une forme de combat que les joueurs européens parfois ne connaissent pas. Et tout ça fait que ça marche pas toujours d'un coup. Rappelez-vous, Hervé Renard, quand il arrive en Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché tout de suite. Les 2-3 premiers mois avant d'arriver à la CAN, ça avait été un petit peu compliqué. Et là, je trouve que pour l'instant, il s'en tire plutôt pas mal avec un match nul en Belgique. Il y a eu cette défaite contre le Japon qui n'était pas exceptionnelle. Mais n'empêche, il y a un groupe qui va se former petit à petit. Puis le retour de Gervinho, je pense que c'était très intéressant et très important aussi.
Alors, entre ces quatre, est-ce que Madagascar et Côte d'Ivoire, malgré tout, ont un avantage pour vous face à l'Éthiopie et au Niger?
Sur le papier, j'allais dire oui. Moi, je pense que là, la Côte d'Ivoire va commencer à enclencher quelque chose et Madagascar reste quand même une valeur sûre parce qu'ils perdent de très peu à Abidjan. Et là, match nul pour eux aussi, c'est pas une mauvaise performance en soi. Hein.
Paradoxal parce qu'ils méritaient plus le nul à Abidjan. Et là, ils méritaient plus de perdre. Donc finalement, la distribution des points aurait pu être un peu différente.
Non, et puis le côté outsider de Madagascar, parce que Dupuy fait quand même un travail de fond formidable depuis qu'il y est. Il faut le noter. Alors, il y a la dernière CAN, mais après, il faut rentrer sur cette dynamique post-CAN.
Tenir le rythme.
Donc, ils sont encore en course pour une qualification avec la Côte d'Ivoire. Moi, je les vois bien. Ouais. Je vois bien les deux équipes pouvoir s'en sortir, même si, attention,
il faut se méfier de l'Éthiopie parce que c'est très dur d'aller jouer là-bas.
Toujours.
C'est très dur d'aller jouer là-bas. On l'a vu pour le Niger qui a bu la tasse cet après-midi. Et ça va pas être simple de revenir avec quelque chose de ce déplacement-là.
L'altitude fait du mal.
La Côte d'Ivoire a l'avantage d'avoir déjà joué là-bas. Madagascar doit encore le faire, donc c'est pas...
Il faudra au moins un nul, mais surtout gagner son match à domicile, ça c'est capital. Mais c'est deux équipes qu'on peut tout à fait retrouver en 2021 à la CAN. Et avec des ambitions, je pense, pour la Côte d'Ivoire. 22, pardon.
C'est la CAN 2021
ou 2022,
excusez-moi. Mais RFI, on a décidé de parler de la CAN 2022, ça simplifie. Les Black Stars ont par contre tout à l'heure relancé le Soudan dans le groupe C, où il y a l'Afrique du Sud et South Sao Tomé et Príncipe, ils ont perdu 1-0 à Khartoum.
Toute dernière minute.
Oui,
ça leur arrive souvent, ça, le Ghana, hein, ces dernières années en éliminatoire, ouais, d'avoir comme ça eu un ou deux ratés.
Ils les avaient pourtant battus, oui, à l'aller.
Alors, le Ghana qui était quand même privé d'André Ayou, blessé, Thomas Partey suspendu. Alors, ça n'explique pas tout, mais ça peut contribuer à une performance moyenne. C'est Jordan qui portait le brassard, mais le Soudan est un stade traquenard. En Durman, c'est difficile. Et il faut saluer aussi le travail d'Hubert Velud, qui est arrivé lui aussi peu de temps avant la coupure, l'interruption due au Covid, et qui commence à faire prendre bien la mayonnaise de cette équipe soudanaise. Là aussi, le match est relancé, alors que le Ghana pouvait, avec un point, lui aurait suffi pour se qualifier. Mais je pense quand même que le Ghana va y arriver. Le Ghana, de toute façon, c'est comme la Tunisie. Ils sont toujours présents.
Absolument.
Après, ils ne sont pas toujours en finale, mais ils sont toujours présents.
Ils sont souvent en demi-finale, au moins.
Oui. Non, c'est vrai.
La demi-finale.
C'est vrai.
Et parfois, aussi, ils alignent les finales, malheureusement, sans les gagner. À souligner, dans cette région, Patrick, c'est le premier point dans ces éliminatoires de la toute petite nation qui est le Soudan du Sud, hein, une équipe récente.
Les premiers trois points, même.
Ouais. Oui, alors,
c'est
la première victoire dans ces éliminatoires. Soudan du Sud face à l'Ouganda, mais ils jouaient pas au Soudan du Sud. Hein.
Ils jouaient pas au Soudan, ils jouaient à Nairobi. Et l'Ouganda a été réduit à 10 depuis la 35e minute. Donc voilà, tout ça a pu contribuer aussi à ce succès. Mais faut saluer cette performance. Le Soudan du Sud était souvent considéré comme l'équipe contre laquelle on prend toujours 3 points.
La logique, c'était logiquement de prendre 3 points. Mais je pense qu'ils y sont allés un petit peu trop sur deux, hein, parce que l'Ouganda a fait un bon début d'éliminatoire.
Ils étaient qualifiés en 4 victoires.
Ils étaient assez tranquilles avec le Burkina Faso, ces deux équipes qui semblaient se dégager. Et puis là, c'est vraiment l'échec totalement inattendu.
Il y avait aussi un autre match tout à l'heure et ça se passait bien au sud de l'Afrique. Allez-y, mais ils y sont allés, sont revenus. Et match nul, sans but pour les écureuils du Bénin, qui avaient gagné leur match aller sur un petit score, 1-0. Et les voilà. Alors on va attendre évidemment le résultat du match du Nigeria face au Sierra Leone. Hein, on se souvient du match aller. C'est toujours faisable, évidemment, pour le Bénin, Patrick Juillard.
Oui, c'est toujours faisable dans cette poule. Ce qui est venu un peu bouleverser l'ordre établi, c'est le point qu'a pris par surprise la Sierra Leone au Nigeria en revenant de 4 buts, quelque chose d'incroyable. Mais le Bénin a manqué de réussite, a manqué un peu d'efficacité puisqu'ils auraient pu gagner. Mais bon, Poté, Mounier n'ont pas été efficaces, suffisamment en tout cas pour tromper l'adversaire. Bon, je pense que la qualification n'est que repoussée et que le Bénin va réussir à le faire. Globalement, l'équipe a gardé son identité. C'est une équipe assez compacte, rugueuse, pas exceptionnelle, mais vu le réservoir dont bénéficie Michel Dussuyer, c'est déjà, un très bon travail qu'il fait avec cette équipe, durée. Quoi.
C'est exactement ça. C'est vraiment, il y a une patte Michel Dussuyer. Alors, c'est vrai que c'est une équipe qui marque pas énormément de buts.
Non, c'est son problème.
Qui arrive à serrer
des victoires courtes.
Ils arrivent à serrer les lignes à l'Agbé. C'est vraiment, on a découvert à l'Agbé depuis 2 ans.
Qui était peut-être le meilleur portier de la dernière CAN.
Ouais, c'est fort possible. Donc, qui avait pris sa place durant cette CAN. Et c'est vrai que lui, il a réussi à faire de cette équipe une espèce de place forte. Hein. On se souvient du fameux match contre le Maroc, qui est à mon avis leur référence. Hein. Même si Ziyech rate ce pénalty à la dernière minute, il n'empêche cette qualification-là. C'était quand même un grand moment
historique
pour l'équipe du Bénin. Et là, pour l'instant, on a la sensation de retrouver un peu cette même équipe. C'est un travail de fond qui est fourni par Michel Dussuyer. Et puis tous les joueurs, costaud. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce 4-4.
Hein. Et on verra ce que ça donne tout à l'heure au Sierra Leone. Cette fédération du Bénin, en tout cas, est à saluer car les dirigeants de la fédération ont eu un geste, on va le dire, très élégant par les temps qui courent et vous comprendrez pourquoi, en emmenant jusqu'au Lesotho. Alors Lesotho, c'est une enclave en Afrique du Sud, dans la région de Durban. Eh bien, ils avaient emmené leurs adversaires dont le vol avait été annulé, le vol retour, puisque le match avait eu lieu à l'aller au Bénin. Alors, ça semble logique, en plus à une époque où on se dit, on encourage le covoiturage, pourquoi pas le coavionnage. pour limiter la pollution. Et même la CAF, on pourrait se dire qu'elle pourrait l'encourager hein, dans la prochaine mandature. Mais en fait, on pense à d'autres équipes. Ah, et là, on a frisé, alors on va pas dire incidemment diplomatique, mais en tout cas sportif, c'est évidemment l'épopée des Panthères en territoire gambien. Des photos et des vidéos ont circulé et circulent encore au sujet d'une équipe nationale du Gabon qui a passé la nuit, elle et tous ses membres, et donc tous les joueurs, dans l'aéroport de Banjul. Les joueurs dormaient à même le sol alors qu'ils devaient jouer l'après-midi même contre la Gambie. Écoutez la colère du sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu. Il se confiait à la télévision gabonaise en plein milieu de la nuit à Banjul.
On arrivait là, il était 23h43 sur un vol affrété par l'État gabonais. Et là, il est 4h30 du matin et on est toujours bloqué. On n'a pas nos passeports déjà. Donc nous, on a voulu nous bloquer, sans doute pour de mauvaises intentions. On ne peut pas sortir parce qu'ils veulent nous imposer un test Covid. Et nous, on a les documents légaux par notre médecin colonel. J'ai pas de mots quoi pour... C'est l'horreur, quoi, de voir mes joueurs dans cet état-là. C'est atteinte au football, c'est atteinte à l'humain, c'est... une maladie qui touche le monde et puis on sert de ça pour priver mes joueurs de football. Et là, je le dis aussi, on touche au Gabon et là, je suis pas d'accord.
Patrice Neveu expliquait donc qu'il était 4h30, ils ont rejoint finalement leur hôtel au petit matin. Alors, il parle de mauvaises intentions. Le pire, c'est qu'un des joueurs de la Gambie, à l'issue du match, qui s'appelle pas Modou Nian, enfin en tout cas c'est le nom apparemment de ce joueur, parce qu'il parle dans un dialecte vraisemblablement. À la fin du match, il a justifié vraisemblablement en disant « De toute façon, on nous a fait pareil au Gabon ». Hervé, c'est quand même un triste événement.
C'est inadmissible, tout simplement inadmissible. Il faut arrêter avec ces accueils, comme on disait, à l'ancienne. Hein. C'est-à-dire qu'on essayait de faire peur aux adversaires, on les mettait dans des hôtels pourris, on jouait sous les fenêtres toute la nuit, ça les empêchait de dormir. Mais c'est totalement inadmissible. Alors je veux bien, parce que j'ai écouté ce qu'ont dit les autorités gambiennes, je veux bien qu'il y ait eu des erreurs de la part des Gabonais. Ça, déjà arrivé à 23h40 pour un match à 17h, faudra m'expliquer pourquoi on fait ça. Ça me paraît invraisemblable.
Erreur des Gabonais,
mais
peut-être d'arriver si tard.
Oui. C'est des éléments mais que je prendrai pas en considération. Car il est tout à fait inadmissible de laisser une équipe nationale de ce calibre-là dormir dans un, enfin, dormir entre guillemets, hein, rester, disons, dans un aéroport de 11h30 jusqu'à 5h ou 6h du matin.
Alors, pour un match après-midi.
Alors, c'est vrai qu'ils auraient pas voulu donner certains papiers, que les tests sont pas les mêmes. Enfin bon, des histoires administratives. Il n'empêche qu'on pouvait les amener quand même à l'hôtel de manière assez sereine et assez tranquille. Et tout aurait dû se passer de la meilleure manière. Mais le problème pour les Gambiens, c'est qu'ils ont fait ça à une équipe où vous avez Aubameyang. Si vous faites ça au Lesotho, bah, tout le monde s'en moque et personne n'est au courant. Alors que là, quand Pierre-Emerick Aubameyang fait un tweet ou un petit message Instagram, c'est vu à peu près par 10 millions de gens, parce qu'il a 1 million de followers qui refollow, qui retweet, etc., etc., qui fait qu'au bout d'un moment, ça a un impact absolument invraisemblable. Et tant mieux d'ailleurs, et tant mieux.
Alors demain, il y aura une conférence de presse du président de la fédération gabonaise, la FEGAFOOT, Alain Mungengi, qui tiendra une conférence de presse à ce sujet pour revenir sur les péripéties, comme il dit. On sait que la CAF s'est saisie du dossier, mais on peut se demander, Patrick Juillard, est-ce qu'elle va quand même réagir, la CAF, autrement qu'enquêter et mettre une amende? Est-ce qu'il peut y avoir une sanction? Est-ce qu'elle aurait peut-être pas dû même intervenir avant et retarder le match?
Peut-être. Le calendrier est très serré. On a rarement vu des matchs retardés pour ça. Parce que ça peut aussi être à double tranchant. Si vous retardez le match Gambie-Gabon pour ces raisons-là, d'autres équipes peuvent... arriver en retard et espérer qu'on retarde leur match en prétextant des problèmes de vol. Enfin, on ne sait pas. Mais donc ça, je suis pas sûr. Mais en revanche, la Gambie peut se voir infliger une suspension de terrain parce que c'est pas le premier incident qui a lieu à Bakao dans ce stade. Rappelons ce qui était arrivé à l'Algérie il y a 2 ans. Il y a d'autres cas récents où la Gambie n'a pas bien reçu ses adversaires. Alors, je sais bien que cette équipe s'appelle les Scorpions et que c'est un animal dangereux, mais enfin, c'est pas une raison. Alors, ça n'enlève rien d'ailleurs au fait que ce soit une équipe émergente qui a des résultats qui s'améliorent. Je veux pas critiquer les joueurs.
Ils sont à leur place d'ailleurs. Parlons-en du football. On verra demain la suite de ce dossier, dans les jours qui viennent, et si la CAF réagit. Mais les Gambiens, finalement, sont ex aequo avec les Gabonais. Ils ont gagné hier. Alors
c'est ça qu'il faut dire aussi. C'est qu'au final,
c'est ça, parce
que
oui, en plus, ils ont réussi leur coup.
Parce que non, mais parce que s'ils avaient perdu leur match, il y aurait peut-être eu conférence de presse ou peut-être pas conférence de presse de la fédération gabonaise. Là, à un moment, ils sont obligés de sévir parce qu'ils se disent attendez, il y a peut-être 3 points à récupérer sur tapis vert parce qu'ils vont, je pense, qu'ils vont porter une réclamation pour cette histoire-là. Maintenant, ça va être compliqué de récupérer 3 points parce que si vous rentrez toujours dans ce genre de choses, après, on ne sait pas jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où les réclamations peuvent aller. On verra. En tout cas, ils ont raison d'essayer de faire quelque chose parce qu'on ne peut pas laisser se passer des histoires comme celle-là.
La Gambie a sa place quand même, Patrick.
La Gambie a sa place parce que si vous regardez
un peu le
pédigré des joueurs, ils jouent dans des clubs qui sont de mieux en mieux. Il y a des joueurs en Serie A. Le deuxième buteur d'hier, Moussa Baro, joue à Bologne, est prêté par l'Atalanta Bergame. Donc c'est pas rien. C'est l'Atalanta Bergame. On sait que quand ils recrutent un jeune joueur, ils se trompent rarement. Donc ce joueur-là est de qualité. Il y en a d'autres.
Même des moins jeunes.
Il y a Moussa Djouara qui est un ancien réfugié qui est devenu maintenant un joueur aussi à Bologne en Serie A. Omar Collet, donc qui jouait pas, mais qui joue aussi en Italie. Donc des joueurs qui sont émergents, un peu comme le Cap-Vert, vous avez raison. C'est une bonne comparaison et par rapport à la taille du pays,
oui,
au rayonnement habituel du football.
Très difficile à bouger à domicile.
Difficile à jouer.
Surtout quand il y avait son public.
Après, disons-le, sur le match.
Il y en avait.
Sur le match.
Un petit peu, mais très peu. Enfin,
le premier but, c'est une énorme erreur, une bourde invraisemblable du malheureux Anthony Famezui, le gardien gabonais. Si jamais il offre un but sur un plateau à Modou Baro, si jamais il fait pas cette erreur, le score reste à 0-0 et je pense que le match était bien parti pour se terminer sur un 0-0.
L'Algérien a fait pas mal aussi sur le bourg de
Mboli.
Malheureusement
pour lui.
Ça n'a rien à voir avec cette erreur de pied.
Allez, un petit crochet par le Cameroun et les Lions Indomptables qui sont allés gagner au Mozambique.
Vincent Aboubakar décisif, 1-0.
Gamaleu, le centre, et au second poteau, Serge Tamegou est présent pour pousser ce ballon au fond, 2-0 pour le Cameroun, nouvel oubli défensif du Mozambique payé très cher. Les Lions indomptables l'emportent à nouveau face au Mozambique, 2-0, un but par mi-temps.
Le Cameroun, alors on le sait, il est déjà qualifié pour la CAN puisqu'il l'organise en janvier 2022. Et ils sont d'ailleurs en plus premiers de leur groupe, donc comme ça, ils sont sûrs d'être là. Mais que dire de cette équipe? Eh bien, avec ce sélectionneur, on se souvient quand il est arrivé, alors on se souvient surtout des remous qu'il y avait avec les prédécesseurs. Là, c'est le Portugais Tony Conceição, là depuis 2019, après cette élimination, on se souvient, à la CAN en Égypte face au Nigeria. Depuis son arrivée, le Cameroun n'a pas perdu 11 matchs, 4 victoires, 7 nuls, et là une pluie de buts. Est-ce qu'il fait du bien au Cameroun, Patrick Juillard?
En tout cas, on a l'impression...
Patrick Juillard fait beaucoup de bien au Cameroun.
ça, je ne sais pas, on verra à la CAN dans un an et demi, mais pour l'instant, j'en suis sur Tony Conceição. Je trouve qu'il fait du bien parce que sa tactique, sa mise en place n'a rien de révolutionnaire, disons-le, mais en revanche, je trouve que... Il a remotivé certains joueurs, il a remis de l'émulation dans ce groupe. Il n'a pas encore trouvé son équipe type, mais comme le Cameroun est qualifié en tant que pays organisateur, il se sert de ses éliminatoires au lieu de jouer des matchs amicaux pour faire des tests, pour tenter des choses. On a vu le jeune Mbezo, dans le couloir droit, qui a fait 2 matchs de suite, qui n'était pas a priori prévu pour ça et qui a montré des qualités certaines. Il a relancé hier Pierre Koundé au milieu, qui a fait, je trouve, un bon match devant la défense, bien orienté le jeu. Gamaleux, joueur des Young Boys Bern, se révèle, 2 passes décisives hier. Donc je trouve que il y a quelque chose qui a arrêté de ronronner dans cette équipe. Et les joueurs, quand ils ont leur chance, ils essayent de se montrer bien à leur sélectionneur. Et pour l'instant, ça profite à l'équipe. À un moment, ça va devenir plus difficile pour Conceição parce que là, il a un groupe de 32-35 joueurs qui fait tourner. Il va devoir le réduire à 23. Et là,
il faudra
faire des choix et faire les bons.
Ouais, voilà.
Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir les quelques grands anciens qui sont bien présents. Enfin, quelques, je pense à un, c'est Aboubakar.
Oui,
parce que Aboubakar, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est la renaissance d'Aboubakar.
3 buts en 2 matchs.
Ah oui, la renaissance d'Aboubakar.
Après une grave blessure, on s'en souvient, à Porto.
On se disait, est-ce qu'il est vraiment pas foutu pour le football, n'exagérons rien, hein, mais non, bon, mais à Porto, il n'était plus en odeur sainteté, il a dû partir, ouais. et on se rend compte qu'il est toujours là, toujours bien présent, hein, celui qui n'avait été finalement que le remplaçant, hein, sur la dernière finale, mais qui avait mis un but formidable et qui avait permis au Cameroun de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, je pensais à un autre joueur aussi, alors Onana, faut dire, maintenant, ils ont trouvé quand même un gardien, mais ils ont toujours eu des bons gardiens.
Après, Mamondo était un bon gardien. Ondoa
était un très bon gardien, ce qui en fait déjà un très bon remplaçant aussi. Ondoa, surtout pas démériter, parce que c'est la CAN, la doivent aussi beaucoup à Ondoa à l'époque. Mais il y a un joueur aussi qui se révèle, qui est pas un jeune joueur, hein, et qui n'était pas non plus un habitué des sélections, c'est Mukudi. Hein, Mukudi en défense centrale avec le joueur de Saint-Étienne, c'est vraiment, vous savez, un joueur camerounais, je dis pas typique, mais costaud, solide, qui a pas peur des duels, un rock, voilà. Et on a besoin de ce type de joueur, surtout sur ces confrontations africaines. Et puis ne pas oublier qu'il va y avoir une telle pression sur les joueurs, parce que là, je pense qu'ils se rendent pas compte que le jour où il y aura la CAN, parce qu'on espère qu'il y aura du public, hein,
comme le Brésil au Brésil en 2014,
qu'on parlera plus de Covid et tout ça. Ouais. Mais la pression sur les joueurs va être tellement énorme, parce que les gens attendent ça avec une telle impatience. Vous vous rendez compte, une CAN au Cameroun, les gens qui sont tellement passionnés, amoureux de football, ça va être immense. Là, il faut surtout pas louper ça. D'ailleurs, une CAN au Cameroun, surtout pas louper. Mais ça veut dire que les joueurs, faudra qu'ils soient ultra costauds dans leur tête. Des Aboubakar, des gens comme ça, je me fais pas trop
bien
de soucis.
Bien préparé surtout. Eh bien, ça sera très intéressant de voir ce Cameroun, et c'est intéressant pour l'instant d'examiner ces résultats, même s'ils sont déjà qualifiés. Allez, un petit tour par l'Europe, on va être très court, mais du coup, je vous poserai une question chacun.
Là-bas.
Ouais, il a vu effectivement ce décalage sur le côté droit, la frappe est gauche, et ça fait bouche, ça fait 2-0.
Peut-être décalé De Bruyne pour Mertens.
Là, je pense que De Bruyne va le prendre ce coup franc.
Alors on danse.
Non, c'est Mertens.
Mertens qui frappe. Oh, quel but! Magnifique de Mertens. On parlait de ses buts avec le Napoli. Et bien là, c'est avec l'équipe de Belgique qui double la mise.
Est-ce que la Belgique et l'Italie seront de la partie de ce tournoi, de la finale de la Ligue des Nations dans un an, hein, et peut-être en Italie. En tout cas, tout dépendra des résultats. Alors, les Bleus y sont déjà. Ce soir, on saura entre l'Espagne et l'Allemagne qui sera le deuxième partenaire. Et puis, il en manquera deux qui jouent demain soir. L'Italie doit aller gagner. Elle jouera en Bosnie sa place dans ce tournoi final qu'elle pourrait accueillir. Mais l'Italie, évidemment, et c'est un match à distance, il y a les Pays-Bas. Patrick, vous penchez pour qui, vous ? Italie ou Pays-Bas ?
Plutôt l'Italie.
Plutôt l'Italie ?
Pourquoi ? Parce que j'ai vu, justement, Pays-Bas Bosnie l'autre jour, et j'ai trouvé la Bosnie assez faible derrière, assez friable. Donc, je pense que l'Italie a les moyens d'aller...
Parce que les Pays-Bas joueront contre la Pologne.
Voilà, hein, c'est plus difficile. Donc, je pense que l'Italie est plutôt avantagée par le tableau, quoi. Donc, avantage à l'Italie qui a plutôt été convaincante elle-même contre la Pologne, justement.
Hervé, il nous reste quelques secondes. Alors, à vous la question. La Belgique, alors, elle est leader de son groupe, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle joue contre le Danemark. Et en fait, c'est un des deux. Le match se déroule à Bruxelles. C'est un des deux qui ira à ce tournoi final.
Et voilà pourquoi je mettrai la Belgique. Parce qu'elle joue à domicile.
Nous aussi,
elle a ce petit avantage. Et elle rêve tellement de retrouver la France qu'on ne peut pas priver les Belges de ce match France-Belgique dans un an. Donc, les Belges, surtout qu'ils ont quand même fait un bon match contre l'Angleterre, même s'ils ont été mis en difficulté dans le jeu, mais enfin, ils s'en sortent 2-0. Et même sans Hazard, parce que bon, malheureusement, Hazard a toujours un petit peu ses pépins de santé, ça reste une équipe qui a un potentiel.
Mais il y a un autre Hazard, vous le savez.
Oui, il y a l'autre. Mais moi, je pensais à celui qui joue au Real, enfin qui joue, excusez-moi, qui devrait jouer au Real, mais qui a eu tellement de blessures qu'on l'a pas vu beaucoup cette dernière année et demie. Mais ils ont un potentiel assez important du côté des Belges, donc je mettrais quand même un petit avantage à nos amis belges contre le Danemark.
Ouais, mais ça sera un revanchard effectivement s'ils se retrouvaient face à la France.
Ça serait pas mal, ça. Hein,
ça serait pas mal. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup Patrick Juillard et Hervé Penaud d'avoir participé à cette émission. Merci à Laurent Salerno qui était à la réalisation, et Tom Rossi qui m'a aidé à préparer l'émission. À demain.